France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, les frontières de l'univers sont devenues infinies grâce à l'observation par Edwin Hubble d'une étoile qui pulsait dans ce qu'on pensait être une nébuleuse, mais qui était en fait une autre galaxie. Oui, il y a 100 ans, la seule galaxie reconnue était la nôtre, la Voie lactée, qui contenait d'une certaine façon à elle seule l'univers entier. Comment l'annonce de l'existence d'autres galaxies a-t-elle bouleversé l'histoire de la cosmologie et de nos représentations de l'espace ? Science Chrono remonte aujourd'hui à cette nuit d'observation qui nous a permis de voir l'univers sous un nouveau jour. Et bonjour David Elbaz.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes astrophysicien au CEA, auteur récemment avec le dessinateur Mathieu Fauré de la bande dessinée Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca, paru aux éditions Alizio Science. Merci beaucoup de venir aujourd'hui nous aider à agrandir l'horizon de l'univers. Avant de raconter cette histoire cosmologique, je vous annonce le programme de la deuxième partie de l'émission. Dans l'entretien archéologique, nous partirons sur une petite île au large de Madagascar qui a abrité des pirates au début du XVIIIe siècle et qui a livré des résultats passionnants sur le mode de vie de ces forbans qui s'étaient installés à terre pour un peu de temps. Mais tout de suite, on plonge dans l'océan de l'univers qui s'est considérablement étendu au début du XXe siècle. On va parler ensemble de la découverte du fait qu'il existe d'autres galaxies que la Voie lactée, une découverte réalisée par l'astronome américain Edwin Hubble dans un contexte dit de grand débat. Mais pour l'archive du jour, il nous fallait rendre hommage à celle sans qui cette découverte n'aurait peut-être pas pu se faire, l'astronome américaine Henrietta Leavitt. Le 4 juin 2015, l'astrophysicienne Yael Nazet parlait d'Henrietta Leavitt sur France Culture au micro d'Aurélie Luneau dans l'émission La Marche des Sciences.
Henrietta Leavitt, elle va s'occuper plutôt de mesurer la brillance des étoiles. Oui. Et en faisant ça, elle se rend compte qu'il y a des objets qui pulsent régulièrement. C'est-à-dire que leur émission, elles sont brillantes, moins brillantes, brillantes, moins brillantes. Puis c'est régulier. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a un lien entre leur luminosité moyenne et la période de leur changement de luminosité. Oui. Alors ça lui paraît un petit peu bizarre, mais bon, c'est une découverte, hein, le vérifie clairement. Alors beaucoup ont cru qu'elle n'avait pas compris la portée de sa découverte, mais elle sait exactement, elle le met dans ses mm-hmm. papiers, ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle a découvert, c'est un moyen de trouver la distance des étoiles. Parce que c'est pas facile, hein, on peut pas se balader avec son petit mètre, hein, et commencer à mesurer en direct. Non, ce qu'on va faire, évidemment, c'est essayer de trouver un moyen indirect. Alors, le meilleur moyen, c'est d'avoir une idée de la véritable luminosité des étoiles et d'observer la luminosité apparente. Et en comparant les deux, on a la distance. Mais trouver un moyen d'avoir la luminosité intrinsèque, c'est très compliqué. Et elle, avec sa petite relation période-luminosité, comme on l'appelle, elle va trouver ce moyen-là. Elle sait exactement à quoi ça sert, mais malheureusement, on ne va pas lui permettre de travailler très longtemps là-dessus. Ce sont d'autres personnes qui vont récupérer sa découverte. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir découvrir qu'il existe d'autres galaxies, prouver que la galaxie d'Andromède, ça appartient pas à la Voie lactée, hein, c'est une autre galaxie, et en plus, prouver que les galaxies s'éloignent de la Voie lactée, et que donc, il y a un mouvement d'expansion dans l'univers. Tout ça a été fait grâce à la loi de Leavitt.
Alors Leavitt, David Elbaz, ce qui est triste, c'est qu'elle est décédée en 1921, donc elle n'a pas pu connaître cette annonce d'Edwin Hubble. Mm-hmm. Quelle réaction provoque chez vous ce propos de Yael Nazet sur cette figure méconnue, un peu mise dans l'ombre de l'histoire d'Henrietta Leavitt ?
Oui, elle fait partie de ces femmes qui ont changé notre vision du monde, de l'univers, et que l'histoire a effacé, parce que c'était des femmes. D'ailleurs, elle faisait partie d'un groupe de, en tout, 80 femmes qui ont travaillé pour le professeur Charles Pickering, professeur d'astronomie à Harvard. Et on est dans les années 1910, avant l'invention de l'ordinateur, donc faut tout faire à la main, avec une loupe et une règle. Et elle va avoir une idée ingénieuse. Non seulement elle s'aperçoit que des étoiles pulsent comme des phares de manière régulière, mais elle va regarder une région particulière, un nuage, le grand nuage de Magellan. Et dans ce grand nuage, elle va observer plus de 1000 étoiles qui pulsent comme des phares. Alors pourquoi c'est une astuce ingénieuse ? Parce qu'elle ne connaît pas la distance de ces étoiles, mais si elles sont toutes à la même position que ce nuage, c'est qu'elles doivent être toutes à la même distance. Donc toutes dans ce nuage. À partir de là, elle sait, si une étoile apparaît comme moins brillante, c'est qu'elle est intrinsèquement moins brillante, pas parce qu'elle est plus loin, puisqu'elle est dans le nuage. C'est ça l'ingéniosité d'un état des vides. Et après, elle s'aperçoit que celles qui pulsent 10 fois plus lentement sont 10 fois plus brillantes, et là, paf ! on comprend qu'il suffit de savoir à quel rythme pulse une étoile pour connaître la distance, si on est capable de connaître la distance du grand nuage de Magellan. Alors, c'est un autre astronome qui s'appelle Arlo Chapley, qui va participer à ce fameux grand débat dont on parlera, mais qui va mesurer ça. Et donc, la loi d'Henrietta Leavitt a été utilisée dès... Alors là, on est dans les années 1910. Hein. Mm-hmm. Eh bien, encore aujourd'hui, on utilise la loi d'Henrietta Leavitt, qui est au cœur d'un débat, aujourd'hui, sur ce qu'est l'univers, une question aussi fondamentale que celle qu'on a eue il y a un siècle, on l'a aujourd'hui. On en parlera après. Mais je le dis dès maintenant, cette découverte-là a encore des répercussions au moment où je vous parle.
Alors, cette découverte-là, on va en décrire les conditions d'existence et la possibilité qui... Enfin, en tout cas, les conditions qui ont rendu possible cette découverte par Edwin Hubble de l'existence d'autres galaxies que la Voie lactée. Je dis ce nom, Edwin Hubble, on peut peut-être le présenter rapidement. Oui. David Elbaz, d'où vient-il? Que faisait-il?
Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, pour savoir aussi, pour situer l'humain derrière à chaque fois les grandes découvertes, hein, parce qu'aujourd'hui Hubble c'est aussi le nom d'un satellite, etc., d'un grand télescope qui a révolutionné notre vision de l'univers, c'est qu'au départ Edwin Hubble, il voulait écouter les recommandations de son père, qui était assez forte. Il voulait qu'il fasse des études juridiques. Et donc, il a fait des études juridiques, même s'il était passionné par l'astronomie. Et puis, une petite anecdote, au moment où il reçoit sa bourse pour travailler, pour faire ses études, il y a une erreur administrative qui fait qu'il a eu qu'une moitié de bourse. Et il pouvait pas travailler, il pouvait pas vivre avec ça, et donc il décide d'aller travailler dans un labo de physique chez Robert Millikan, qui va devenir prix Nobel de physique. Et là, comme on pouvait attraper le Covid il y a quelques temps, ou encore maintenant, lui, il a attrapé le virus de la physique bien faite, de l'observation qui révolutionne tout de l'astronomie. Et puis plus tard, donc il va finalement abandonner les études juridiques, mais il va faire de l'astronomie. Et en 1917, on lui propose d'aller travailler au Mont Wilson avec l'avènement du plus grand télescope du monde, le télescope Hooker, qui fait 2,5 mètres, un mètre de plus que celui d'avant, 1,50 m. Donc en fait, c'est un mètre qui va faire de lui un maître de l'univers. Alors, il va y avoir un petit aller-retour par le front, parce que en fait, il va s'engager pour faire la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, 1917. Ouais. Et parce que il se sent concerné par ce qui se passe dans le monde. Et donc, il va retarder un peu le moment où il va utiliser l'observatoire. Mais il va être vraiment le premier à avoir un regard sur l'univers qu'on n'a jamais vu. Ouais. Et là, alors là... Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, on a cette fameuse plaque photographique, la 335, je crois, où il y a un des nuages dans le ciel. Cette fois, c'est pas le nuage de Magellan, c'est un nuage qui s'appelle Andromède, et dans lequel il voit qu'il y a des nouvelles étoiles, des étoiles qui viennent d'apparaître, des novées. Alors, il met un N à côté. Mais il y a une des novées dont il regarde dans les archives qui avait déjà été nouvelle avant. On peut pas être nouveau plusieurs fois. Et donc, il comprend que c'est une étoile variable. Et donc, il barre le N et il écrit en rouge VAR avec un point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il applique la loi d'Henrietta Leavitt. Et il s'aperçoit que l'étoile pulse tellement lentement qu'elle est à près d'un million d'années-lumière, 900 000, de la Terre. Au-delà de la taille de la Voie lactée.
La Voie lactée qui fait 52 000 et quelques années-lumière. Donc là, on est vraiment dans des ordres de grandeur bien, bien, bien supérieurs. Et donc là, voilà, l'univers prend une dimension totalement folle et inimaginable pour l'époque. Je dis pour l'époque parce que on vient jamais de nulle part, bien sûr, en histoire des sciences. Il y avait aussi, quand même, au-delà d'Edwin Hubble, des gens qui se posaient la question de savoir si ces étoiles qu'on observait avec cette faible luminosité étaient vraiment ou pas dans notre Voie lactée.
Exactement.
Il faut parler de ce contexte de pensée, de réflexion, de débat, de grand débat dont je parlais au début de l'émission, qui s'affrontait et quels étaient un peu les arguments et les théories en confrontation.
Alors, il y a eu beaucoup d'astronomes qui se sont confrontés au cours des âges. Il y a eu la première carte de la Voie lactée qui a été réalisée. Alors, on dit par William Herschel. En réalité, c'est plus probablement par sa sœur, Caroline Herschel, qui elle aussi.
Encore une fois.
Voilà. Une femme oubliée de l'histoire. Ouais. Donc, il est temps de la rappeler. Et elle était, très discrète. Elle avait pas envie d'être sous le feu des lumières. Et en fait, elle travaillait beaucoup à observer les étoiles. Et elle a fait la première carte de la Voie lactée. Et alors, en 1785, on s'est retrouvé. Vous savez que Copernic a dit qu'on n'était pas au centre du monde. Et dans la vision des Herschel, on a retrouvé notre place au centre d'un monde qui était la Voie lactée. Bon, mais ça venait d'un défaut dans la mesure. Et puis, des mesures, les unes vont se succéder. Et en 1920, le 26 avril 1920, il va y avoir un débat entre Hébert Curtis et puis Arlo Chapelet, qui va un peu cristalliser ce grand débat qu'il y a entre, on l'appelle historiquement le grand débat, entre deux astrophysiciens, astronomes, qui vont tous les deux se tromper de multiples reprises, et Hébert Curtis va avoir raison parce qu'il s'est trompé deux fois, Chapelet va avoir tort parce qu'il s'est trompé qu'une fois peut-être, et il faut se tromper deux fois pour que ça s'annule. Alors, je dis en deux mots ce qui s'est passé. Tout le monde avait tort, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le 2,50 m de Edwin Hubble. Oui. Donc, ce que fait Arlo Chapelet, par exemple, c'est qu'il a des mesures de vitesse de ces nébuleuses qui tournent sur elles-mêmes par quelqu'un qui s'appelle Van Manen, et il se dit, si elles étaient d'autres galaxies, elle tournerait sur elle-même plus vite que la lumière. C'est pas possible. L'autre lui dit, non, moi, je vois dedans des novae, donc des nouvelles étoiles, quand je mesure leur lumière, elles sont au-delà de la Voie lactée. Alors, ils se trompent à deux niveaux. C'était pas des novae, c'était des supernovae. Et en fait, elles étaient 100 fois plus lumineuses, et donc c'était pas du tout les bonnes distances. Mais il prend une mesure de la taille de la Voie lactée d'un néerlandais qui s'appelle Kapteyn, qui était trop petite. Donc bon, il avait raison. Mais c'est vraiment le moment où Hubble va faire cette mesure d'une céphéide, une étoile qui pulse, comme l'a vu Henrietta Leavitt, qui va tout changer. Et ça, ça va se passer à un moment donné.
Où est-ce qu'il observe cette céphéide ? Parce que là, on parle de ce qu'aujourd'hui on connaît comme la galaxie d'Andromède. Voilà, à cette époque-là, on parlait de nébuleuses stellaires, oui, d'amas d'étoiles. On ne savait pas très bien le nommer, finalement, tout ça.
Depuis les Grecs, depuis les anciens Grecs, on voyait des amas d'étoiles, les Pléiades, par exemple. Par exemple, en France, fin du XVIIIe siècle, on avait Charles Messier. Alors lui, Charles Messier, c'était un chasseur de comètes. Et donc, lui, il voyait les nébuleuses comme étant un problème. Parce que il voulait pas les confondre avec des comètes. Et donc, dans la poubelle du Charles Messier, ce qu'on appelle aujourd'hui le catalogue, il y avait plein de nébuleuses qui sont révélées être des galaxies.
C'est ça qui est fou, en fait, dans l'histoire des sciences. C'est qu'on peut voir plein de fois la même chose, mais si on n'est pas prêt à faire la découverte, on ne la fait pas.
Exactement.
Et donc là, du coup, en 1917 aussi, il y a eu beaucoup d'observations de ces galaxies qu'on ne connaissait pas encore comme des galaxies, par notamment un certain Vesto Slipher. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, parce qu'en fait, il travaillait à un télescope de quelqu'un qui s'appelle Lowell, et qui a créé son propre observatoire, et qui lui a dit, regarde, ces nébuleuses qui tournent comme des spirales, c'est probablement des systèmes solaires en train de naître, comme l'avait prédit Emmanuel Kant, en 1785. Et donc,
Emmanuel Kant, qui parlait déjà d'île-univers.
Alors,
il postulait déjà ça.
Tout à fait, exactement. Il avait aussi prédit l'existence d'autres univers. Il avait prédit deux choses. Et en fait, il est passé d'une prédiction de Kant à une autre. La prédiction qu'avait cru Lowell, c'était que c'était des systèmes solaires en formation. Mmh. Et en fait, ce qui va valider, c'est que ce sont des autres univers. Et les deux viennent de Kant. Et en fait, il va complètement devoir modifier son télescope pour regarder ces nébuleuses spirales, Vesto Slipher, et il va s'apercevoir qu'elles se déplacent. Alors que les étoiles se déplacent d'habitude environ à 5-10 km par seconde, elles se déplacent à plus de 500 km par seconde. Donc là, il se retrouve dans une situation qu'il faut imaginer juste un instant. Vous êtes tout seul dans votre observatoire avec un appareil que j'ai retrouvé avec des vis micrométriques qu'il tourne pour mesurer comment est décalée la raie spectrale. Et vous vous apercevez que littéralement tout fout le camp. Tout s'en va,
se dérobe
sur vous, c'est-à-dire que toutes les galaxies partent, s'éloignent de vous à 500 km par seconde dans toutes les directions. Et là, il écrit un article où il dit « Je donnerai plus tard une tentative d'explication possible de ce phénomène des vitesses. » Il n'ose pas.
Il panique.
Et c'est les seules mesures, celles de Vesto Slipher, qui vont exister même pour Edwin Hubble, quand en 1929, il va étendre les travaux qu'il a faits et qu'il a publiés en 1925, où il découvre l'existence des galaxies, où il va s'apercevoir, comme on l'entendait tout à l'heure dans la retransmission, que l'univers est en expansion.
Est en expansion, et on va parler bien sûr de ce travail d'Edwin Hubble, qui n'implique pas que Edwin Hubble, mais aussi Georges Lemaître. Moi, j'aime bien aussi, dans cette histoire des sciences qu'on fait, et quand on a possibilité d'avoir accès à ces documents-là, consulter les annonces de ces découvertes. Alors, je suis allé fouiller un peu sur Internet pour retrouver l'article qui est paru dans le New York Times le 23 novembre 1924, donc il y a quasiment 100 ans. jour pour jour. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que cet article-là est un tout petit encart au-dessus d'une immense page de pub pour des manteaux en fourrure. Et que, voilà, je vous donne juste le titre, c'est « Les nébuleuses spirales sont des systèmes stellaires », sous-titre « Le docteur Hubble, mal orthographié, H-U-B-E-L, confirme l'idée qu'il s'agit d'îles univers semblables à la nôtre. » Et en fait, l'article, il reprend finalement le communiqué du Mont Wilson, enfin de l'observatoire du Mont Wilson, sans doute écrit par Hubble lui-même. Et il y a tout dans ce petit communiqué. Il y a déjà la distance, le diamètre de ces galaxies, le fait qu'il y en a potentiellement des centaines de milliers. Alors aujourd'hui, on les compte plus. On parlera bien sûr de l'estimation du nombre de galaxies qu'on a aujourd'hui. Vous, voilà, quand en tant qu'astrophysicien, vous êtes confronté à ce genre d'annonce qui est apparemment pas du tout spectaculaire. Ça vous fait quoi quand vous consultez ce genre de document?
Alors oui, effectivement, j'aime bien me remettre dans la situation, effectivement, de, comme tout à l'heure, je parlais de Vesto Slipher, de cette situation de comment ça s'est fait. Hubble, lui, quand il fait la découverte, donc c'était même un an avant.
Et c'est ça, il y a eu un an d'écart, avant l'annonce.
Voilà. Et il le publie pas. Il va conforter son idée en cumulant plein d'étoiles céphéides, comme ça, d'étoiles pulsantes. Novembre 1924, quand c'est annoncé par New York Times, toujours pas d'article. L'annonce officielle aura lieu en janvier 1925 au congrès de la Société américaine d'astronomie. Et même là, on invite Edwin Hubble, on lui dit « Viens, t'as fait quand même une découverte incroyable », il vient pas. Tout le monde l'attend, il se demande qu'est-ce qui se passe, il est où, il vient pas. Donc, on finit par lui demander d'écrire un truc. Donc, il écrit un truc que le président du Congrès va lire, qui va être le highlight, de la conférence. On est au 1er janvier 1925. Quand est-ce que Hubble va écrire l'article? En décembre 1925. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour nous, aujourd'hui, ça change tout. Le fait qu'il y ait d'autres univers. Mais à l'époque, bizarrement, il y avait une telle effervescence dans tous les sens que... le fait de découvrir... D'abord, on sortait de la guerre. Il y avait des tas de choses qui étaient en train d'émerger, de changer dans le monde. Ce qui a fait que cette découverte des galaxies n'a pas été comprise à sa vraie valeur, même par la communauté scientifique, même par les astrophysiciens. Parce qu'ils n'avaient aucune idée du fait qu'allait suivre de cette découverte-là le Big Bang. Ils pouvaient pas imaginer ça. Donc même quelqu'un, pour Einstein par exemple, l'univers c'était juste un ensemble d'étoiles.
Quand on y pense, on est dans une période et pour la cosmologie et pour la physique théorique qui est un âge d'or comme il y en a eu pas mal quoi. Oui. Mais là celui-ci il est particulièrement.
Tout va changer, tout va être sans compter qu'en même temps, en parallèle, on en révolutionne l'infiniment petit avec la mécanique quantique, avec des révolutions extraordinaires. Donc oui, c'est bizarrement, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde se dise « ça y est, on a la preuve qu'il existe d'autres univers, etc. » En fait, ça a pris du temps.
Est-ce que finalement, David Elbaz, cette découverte du fait que la Voie lactée n'est pas la seule galaxie, mais qu'il y a une infinité d'autres galaxies, a été éclipsée par ce dont vous parliez, le fait que Hubble, avec Georges Lemaître, bien sûr, mesure cette expansion de l'univers, cet éloignement finalement à une vitesse assez rapide des galaxies, ça a été le vrai tournant, la vraie bascule dans l'histoire de la cosmologie moderne.
Oui, parce qu'en fait, on a transformé l'univers en un livre d'histoire. L'univers s'est révélé être lui-même doté d'une histoire et il grandit. Et il y a eu un moment où il n'y avait pas d'étoiles, un moment où il n'y avait pas de galaxies, un moment où il n'y avait rien. C'est complètement révolutionnaire. Avant, l'univers, c'était plus ou moins grand. Et il y a eu des histoires de la cosmographie où on fait une carte de l'univers. Mais à la limite, l'univers ne changeait pas. Donc, qu'il soit plus ou moins grand, ça ne changeait pas grand-chose. Maintenant, il n'a pas grandi dans l'espace. En 1925, il a grandi en espace, mais en 1929, il a changé dans le temps. Il est devenu un livre d'histoire. Donc, on est passé de la géographie à l'histoire. Et là, par contre, on s'en est pas remis encore aujourd'hui.
Et ça, c'est intéressant de se dire qu'on s'en est pas remis un siècle avant et que certaines idées mettent leur temps aussi avant d'être acceptées, surtout d'être comprises, parce que c'est ça qu'on a. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Edwin Hubble, David Elbaz, je crois qu'il n'y croyait pas non plus, lui, à cette expansion de l'univers. Mmh. Il la mesurait, mais elle l'embarrassait.
Voilà. Donc lui, il était convaincu que les observations pouvaient souvent, très souvent, être entachées d'incertitudes. Et donc, il disait que pour lui, cette expansion de l'univers relevait plus d'une incertitude dans les observations que d'un fait physique. Pourtant, 2 ans avant, Georges Lemaître a écrit son article dans lequel il résout les équations de la théorie de la relativité générale d'Einstein et il montre que un univers qui n'est soumis qu'à la gravité, où tout s'attire, ne peut pas rester stable. Tout s'attire, ça ne peut pas rester stable. Donc, soit c'est en expansion, soit c'est en contraction. En fait, ça, c'est évident. Comment on peut accepter une chose pareille? Comment on peut accepter que l'univers soit éternel et stable alors que tout s'attire? Ça ne tient pas à ça. Et donc, ce que trouve Lemaître, c'est que l'univers, il n'est pas stable. Or, il a entendu parler des mesures de Vestoslieffer et il comprend que donc il est en expansion. Et il le cite d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est finalement la résolution d'une énigme qui était là dès l'invention de la gravité, la découverte de la gravité. Pour Newton, l'univers n'était pas stable non plus. Et donc, il y a le révérend Bentley qui a envoyé des lettres, qui travaillait à Cambridge, qui envoie une lettre à Newton. C'est quelqu'un qui est très formé dans les sciences, qui comprenait la théorie de Newton et qui lui dit « Merci, vous avez démontré que Dieu existe ». Newton dit « Pardon, je ne comprends pas, moi j'ai juste dit il y a de la gravité, etc. » Et l'autre lui dit « Bah oui, donc Dieu existe ». Newton lui dit « Attendez, expliquez-moi, je ne comprends pas le... » Et le révérend Bentley lui dit « Bah enfin, tout s'attire, donc ça aurait dû s'effondrer depuis longtemps, n'est-ce pas ? Or ça ne s'est pas effondré, donc c'est Dieu. »
Oui, oui.
Et là Newton réalise le problème. Et là, il essaye de s'en sortir, même s'il est croyant. Il lui dit « Non, non, mais attendez, c'est parce que c'est un univers un peu comme un cristal où tout est infiniment grand et ça s'attire autant à droite qu'à gauche, autant en haut qu'en bas, dans toutes les directions, ce qui fait que c'est stable. » Et Bentley lui renvoie une lettre et lui dit « Vous moquez de moi, là. Vous avez réalisé qu'il suffit qu'une mouche se pose sur une planète, une toute petite perturbation, et hop, il y a un tout petit déséquilibre de rien du tout et tout s'effondre. Votre truc, il tient pas. » Et Newton finit par admettre et il lui dit « Vous avez raison, ça tient pas mon truc. C'est peut-être lui.
C'est peut-être lui. Bon, finalement, on pense que c'est pas lui quand même. Mais David Elbaz, si on revient à cette figure d'Edwin Hubble et à cette découverte non seulement des autres galaxies, mais aussi du fait que l'univers est en expansion et que les galaxies s'éloignent les unes des autres, il continue tous ses travaux. Il va faire une classification des galaxies, donc il va pouvoir permettre de faire une typologie des différentes galaxies, entre les galaxies spirales, les galaxies régulières, les galaxies elliptiques. Il décède en 1953, donc 30 ans après son épiphanie, son observation. Comment vous percevez aujourd'hui cette figure-là qu'on a finalement mise très en avant et qui a donné le nom, vous le disiez, à ce télescope qui lui aussi a prolongé finalement ce travail d'observation d'Edwin Hubble?
Je pense qu'il y a deux regards qu'on peut avoir. Le premier, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire des sciences est faite d'une accumulation de petites découvertes et d'un grand nombre de gens dont on oublie les noms, qui ont apporté des choses, etc. Et puis, on a besoin d'incarner ça avec des dates et des gens. Et donc, Edwin Hubble s'impose. Ça, c'est une première façon de voir. La deuxième façon de voir, c'est que c'est quand même pas n'importe quel choix. Il a trouvé l'existence des galaxies via la loi d'Henrietta Lévy. Il a montré que l'univers avait une histoire. Et ensuite, il a inventé la sociologie des galaxies en faisant une catégorisation morphologique des galaxies. Ce sont 3 domaines sur lesquels on est encore en train de travailler aujourd'hui. Donc, il y a un avant et un après Hubble, c'est certain. Pareil pour Einstein, Poincaré, s'il n'y avait pas eu Einstein, il y avait Poincaré, etc. Donc on peut discuter de ça. Et pourtant, Einstein, c'est Einstein. Alors, on n'est pas au niveau d'Einstein, hein, de même Georges Lemaître. Donc il y a des noms comme ça qui vont cristalliser un fait qu'il y a la veille et le lendemain du jour où ces gens-là vont dire une chose. Et Edwin Hubble va incarner ça. Il faut une force et un courage extraordinaire pour pouvoir D'ailleurs, il a eu du mal à annoncer même la découverte de l'expansion de l'univers. Donc, il faut quand même des gens qui ont un caractère, une force de caractère énorme aussi, hein, pour incarner ça.
Ce que je trouve fabuleux dans cette histoire de la découverte des autres galaxies, c'est qu'aujourd'hui, David Elbaz, on en connaît un nombre... enfin, en tout cas, on estime le nombre de galaxies à des centaines de milliers de milliards. Donc, ce vertige-là, métaphysique, dans lequel nous plonge un homme avec son observation et son article, est-ce qu'on s'en est remis? Est-ce qu'aujourd'hui, on mesure cet incommensurable-là?
Eh bien, au moment où on parle, là, je participe à un congrès sur les découvertes du James Webb sur les galaxies. Je m'en suis sorti là et je vais y retourner après. Voilà.
Merci.
Eh bien, on est en train... c'est pour juste dire qu'on est en train d'avoir les mêmes débats que ceux qu'il y a eu au moment du grand débat. Alors, c'est plus les mêmes galaxies. Ce sont les premières galaxies. Et alors, elles sont un peu trop nombreuses. Elles ont formé trop d'étoiles. Ça colle pas avec la théorie. Et de nouveau, il y a les deux camps. Ceux qui disent, oui, mais vos mesures sont-elles suffisamment fines? Est-ce que c'est une erreur des mesures, comme le disait Hubble? Et d'autres qui disent, on est en train de lever un lièvre, là. Il y a quelque chose qui va pas. Bon. Et alors, ça débat. Or, le taux d'expansion de l'univers, l'expansion de l'univers, ça a été mesuré par un paramètre qu'on appelle la constante de Hubble. Aujourd'hui, est encore débattu parce que, selon qu'on la mesure avec une technique qui s'appuie sur la loi d'Henrietta Leavitt aujourd'hui, d'accord, ou bien qu'on la mesure à partir de ce qu'on a vu dans ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique tout près du Big Bang, ça colle pas. Ça colle pas. Il y a une tension. Donc, il y a une tension là. Il y a une tension avec le James Webb qui suggère qu'il y a peut-être un peu trop de galaxies, elles ont une croissance un peu trop rapide. Peut-être chacun s'explique avec... Mais il y a une troisième tension. C'est que la troisième tension, c'est que le rythme d'expansion de l'univers a accéléré. Donc il y a un nouveau Big Bang qui est en cours. Et la question, c'est de savoir ce qui fait ça. Est-ce que c'est une énergie qui est toujours la même au cours du temps ou elle change au cours du temps? Il y a des mesures d'un observateur qui s'appelle Desi, qui est aux États-Unis, qui suggère que, en fait, ce qu'on pensait, ce qui sort de la théorie d'Einstein, ne colle pas. Le satellite Euclide vient d'être lancé, qui va mesurer la géométrie de l'univers et dans un an, va commencer à nous donner des réponses par rapport à ça. Ces trois endroits où ça colle pas sont peut-être des incertitudes de mesure ou, comme certains commencent à le dire, les signes avant-coureurs d'une révolution. D'une révolution scientifique qui va changer la donne. C'est-à-dire qu'on peut être à la veille d'un moment où on va avoir une révolution dans notre compréhension de ce qu'est l'univers, peut-être analogue à celle qu'on a vécue dans les années 1920. Donc on a une chance extraordinaire. Nos auditeurs ont une chance extraordinaire. C'est que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, peut-être va se passer quelque chose d'extraordinaire comme à l'époque. Donc soyons prêts, soyons à l'écoute.
Et on peut dire aussi merci, là, dans ce cas-là, à la technique, puisque si Hubble a pu faire cette observation, c'était grâce, à l'époque, au plus grand télescope terrestre qui existait. Et là, on parle d'Euclide, on parle de James Webb,
oui.
On parle d'outils qui sont infiniment plus précis et perfectionnés que ne l'était ce télescope-là.
Exactement. La révolution est souvent liée à l'instrumentation, à l'astrophysique. D'ailleurs, l'astrophysique...
Il faut aussi être capable d'interpréter ce qu'on observe.
Exactement. Exactement. Et ça, en fait, l'astrophysique est née en 1859, précisément. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était des astronomes. On regardait, on faisait des images. Voilà. Et en 1859, c'est le moment où on s'est aperçu, Kirchhoff s'est aperçu que dans la lumière... Donc, il y avait quelqu'un qui s'appelle Fraunhofer qui avait vu que dans la lumière, il y a des zones d'ombre. Puis, on avait compris que c'était parce qu'il y avait des atomes qui absorbaient certaines couleurs. Et ce que va faire en 1859 Kirchhoff, c'est qu'il va se rendre compte que la lumière du soleil a une zone d'ombre au même endroit que lorsque vous faites fondre du sel et le sodium. Et donc, c'est le sodium, il est dans le soleil comme il est sur Terre. Et c'est la première fois où on va faire de la physique d'un astre, le soleil, et on va dire il y a un objet physique, il y a du sodium. À partir de là, on va lire le langage de la lumière avec ses absences de lumière. Ça va faire la lumière sur la présence d'atomes. C'est rayon en absorption. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on va faire des mesures de vitesse, de déplacement et qu'on va faire la physique de l'univers. Ça a été une révolution. Le James Webb aujourd'hui est en train de décoder le langage de la lumière des premières étoiles dans l'univers. Et c'est de ça qu'on débat aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous, David Elbaz, d'être venu nous parler, comme à chaque fois, avec brio de cette histoire, de notre compréhension de l'univers. Je crois qu'on vous retrouve très bientôt. On est le 27 décembre, on vous retrouve très bientôt sur les planches pour un spectacle, un seul en scène. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on peut vous voir?
C'est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse.
À Paris.
Voilà, le 29 décembre, à Paris. Donc, il y aura aussi en février. Et c'est un spectacle qui s'appelle Dans les étoiles, où je raconte des histoires sur l'univers, avec un peu de musique, avec un peu d'univers en 3D, un peu de poésie, et qui est vraiment pour tous.
Eh ben, on invite tout le monde à aller vous voir au Théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Tout le monde, sauf ceux qui savent déjà tout.
Merci beaucoup, David Elbaz. À très bientôt. I see your bliss when I walk the distance, I make the trail. We always sink when you pull the strings while I guide the sails. We treated trust as a mission and sabotage ourselves. But if our love got fixed, or we lose all our tricks. But all your skin feels like heaven lights while we take the stand. So I still like it when we fight, it makes me think you care. You find the thrilling confliction and I just like to stare. But I don't trip cause we'd lose it all if you got repaired. Our view of love has been altered to match each other's mental. We had trust but we lost it along with our potential. It feel like Stockholm and all dysfunctional residential. But if our temple was healthier, would it be our temple? We went from sex in the kitchen to formal shaking hands. Our hearts get stretched in the inches, we forced to take a chance. I let you down too much, I blamed it on my shaky hands. But if our love got fixed, we'd lose all our tricks. Edwin Hubble par Jawil et Eli G dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir vogué dans l'espace dans la première partie de l'émission, on hisse à présent la grand voile du deuxième temps de notre émission. Il est l'heure de l'entretien archéologique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Au tournant du XVIIIe siècle, vivait sur une île au large de Madagascar un groupe de pirates qui s'était sédentarisé dans une sorte de comptoir marchand. De récentes fouilles archéologiques nous en apprennent plus sur cette courte occupation de l'île Sainte-Marie et nous permet de faire un peu de nettoyage dans l'histoire de la piraterie, souvent perdue sous des strates de mythes et de chasse au trésor. Comment cette micro-société de forbans s'organisait-elle? Quelles furent les interactions entre ces pirates et la population de Madagascar? Et comment cette occupation de quelques décennies témoigne-t-elle d'une période de transfert de la piraterie des Caraïbes vers l'océan Indien? Voilà quelques-unes des grandes questions auxquelles nous allons nous atteler avec vous aujourd'hui. Jean Soula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue de la piraterie au laboratoire Landarc, associé au CNRS de l'Université de Caen et Paris 1. Vous êtes auteur récemment du livre « La grande histoire pop des pirates » aux éditions Erol. Et vous avez conduit ces travaux de recherche récents sur l'île Sainte-Marie, dans ce repère de pirates autour de la baie d'Ambodi-Fotatra. Alors avant de nous intéresser à cette île Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar, j'aimerais qu'on parle un peu de l'archéologie de la piraterie, Jean Soula. Je crois que vous n'êtes pas très nombreux à en avoir fait votre métier. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette archéologie plutôt récente?
Alors, c'est vrai que c'est une thématique de recherche très récente qui est née dans les années 60 aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis, grâce à des programmes universitaires. Tout d'abord initié, il faut le dire, par les chasseurs d'épaves, indépendants, qui pillent et qui continuent malheureusement à piller les océans. C'est un fléau, mais il faut en parler. L'officialité de l'archéologie sous-marine aux États-Unis a pris le pas sur cette archéologie de la piraterie, grâce à des programmes universitaires, notamment à l'East Carolina University, sur la fouille du Queen Anne's Revenge, le bateau sabordé par le fameux Barbe Noire en 1718, fouillé depuis 1996 et qui a un énorme programme de recherche. En Europe, c'est plus ténu. On appelle plutôt ça de l'archéologie des Outre-mer, l'archéologie ultramarine, qui se développe dans nos contrées lointaines, aux Antilles, au large de la Guyane, éventuellement au Brésil, le long de la côte sud. Mmh. Et puis, bien sûr, dans l'océan Indien, qui est un autre repère historique des pirates que l'on connaît moins. Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai eu, suite à un voyage familial à l'île Maurice, j'ai eu l'occasion de découvrir ces premières première collection archéologique liée au Speaker, qui est une épave qui a coulé, navire de frégate français repris par les pirates, qui a coulé au large de l'île Maurice en 1702 et qui m'a donné l'idée de développer ce programme de recherche universitaire soutenu par l'Université de Caen notamment. Et pas mal de collègues ont pris le pied et sont partis à l'abordage de ces sites archéologiques pirates dans le monde entier.
C'est quoi un pirate ? Parce que c'est un concept très flou qui est noyé sous pas mal de clichés. On pense tout de suite à la jambe de bois, au crochet, au bandeau sur l'œil, au perroquet sur l'épaule, voilà. Mais c'est quoi un pirate ?
Alors c'est ce qui fait évidemment rêver petits et grands, et c'est ce que j'évoque dans mon livre.
Archéologue des pirates, c'est pas mal. Quand on est papa, je sais pas si c'est votre cas, mais j'imagine que pour vos enfants, c'est
j'ai deux
assez
enfants. oui, c'est assez génial. Et d'ailleurs, pour les copains de mes enfants aussi, on essaie de développer un petit peu ces clichés et de revenir sur ce mythe du pirate de la jambe de bois, comme vous l'avez évoqué. En fait, être pirate, c'est tout simplement déjà être marin. C'est naviguer sur des eaux périlleuses au XVIIe, XVIIIe siècle, puisque là, évidemment, on va parler de l'âge d'or de la piraterie, entre les années 1680 et 1730, donc fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et ce pirate, en fait, est un auto-entrepreneur, une sorte de mercenaire qui est un hors-la-loi, mais c'est un marin qui espère avoir une seconde vie, une seconde chance dans la vie.
On n'est pas pirate toute sa vie.
Non,
en fait.
Et souvent, quand on devient pirate, donc on se reconvertit en tant que pirate et on vit pas longtemps. L'espérance de vie est assez courte. Mais ça, c'est lié à la marine aussi de l'époque, hein. Ouais. Promiscuité, problème de santé, d'hygiène, problème de navigation, bien sûr. Ils espèrent devenir riches, ces marins, ces pirates, en passant pas et en devenant hors la loi, malheureusement, souvent c'est loin du rêve et c'est plutôt la misère qui les attend.
Quelles sont les sources écrites sur lesquelles vous pouvez vous baser, vous, en tant qu'archéologue, pour comprendre un peu la vie, la culture de cette piraterie, de cet âge d'or au tournant du XVIIIe siècle de la piraterie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux d'histoire qui ont documenté ça ?
Et oui, justement, c'est ça qui est magique avec cette période du XVIIe, XVIIIe siècle, à la différence des périodes beaucoup plus anciennes, c'est qu'on a énormément de sources écrites qui nous parlent, où on a des mots qui sont stipulés comme forban, pirate, mercenaire, etc. Et donc, c'est extrêmement riche pour nous. Alors, on va aller travailler sur des plans d'îles exotiques à la BNF à Paris, à la British Library de Londres, évidemment, mais aussi aux archives de Séville en Espagne. Et cette européanisation aussi, la commercialisation, la contrebande qui va derrière se développer pour mettre fin au développement des colonies d'Amérique et d'Asie. En fait, c'est ça, hein, les pirates, c'est essayer de prendre des bateaux et ensuite essayer de receler la marchandise. Parce qu'on imagine souvent que le pirate va vivre tout de suite avec ce butin, mais généralement le butin n'a pas une forme numéraire, ce ne sont pas des monnaies ou des pièces de monnaie, comme la légende aimerait le croire, mais c'est ça peut être des
d'objets.
Étoffes, des épices, de la porcelaine chinoise et tout ça, est revendu à d'autres contrebandiers, et ensuite ça repart vers d'autres destinataires relativement aisés en Europe, déviant un peu le marché classique de la Compagnie des Indes, auquel on peut imaginer.
Alors quand on est archéologue, on s'intéresse beaucoup aux objets, là aussi c'est une complexité de définir la culture matérielle des pirates, et c'est ce à quoi vous vous attelez notamment au large de Madagascar sur cette île Sainte-Marie. Avant d'arriver sur l'île Sainte-Marie, on pose encore ce décor épistémologique. Comment on définit cette culture matérielle pirate ? Est-ce qu'elle existe même ?
Alors, elle n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'objets propres aux pirates. Ce sont des objets accumulés, évidemment. Il n'y a pas de béquilles, de jambes de bois, de cache-œil ou de chapeau avec le Jolly Roger sur le dessus. Non, ça n'existe pas. Par contre, on a des témoignages du multiculturalisme. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que je préfère, en fait, très honnêtement, travailler sur les objets liés à cette accumulation sur un temps court d'objets variés. Par exemple, sur la céramique. La céramique, les archéologues, tout le monde connaît ça, évidemment. Quand on travaille sur la céramique liée à la piraterie, on va tout de suite être perdu. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une multitude d'origines. Par exemple, sur l'épave sur laquelle on travaille à Sainte-Marie, on a une quantité industrielle de porcelaine chinoise de la fin de la période Kangxi, c'est à 1710-1715, mais on va surtout avoir des koulals, c'est-à-dire des bouteilles conservant de l'eau qui viennent de l'Indo-Persan, donc de tradition islamique. Et on va avoir aussi des assiettes ou des bols venant d'Europe, de Provence en France, de Ligurie en Italie ou d'Espagne, etc., même de Hollande et d'Angleterre. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que quand on est archéologue, par exemple, sur la période médiévale ou moderne en France, on va s'atteler à travailler sur une région. Un territoire donné.
Et un type d'objet.
Et un type d'objet. D'objet
voilà. Qu'on identifie bien, pas comme dans... En tout cas, ce que vous dites est fascinant, c'est que finalement, ces navires de pirates sont des navires mondes qui recueillent à eux seuls une culture déjà mondialisée, une culture matérielle déjà mondialisée, et eux-mêmes sont à la croisée de tous ces réseaux et toutes ces chemins, finalement, d'interaction. Si on parle de cette île Sainte-Marie, présentons-la. Où se situe-t-elle? Quelle est la topographie du lieu? À quel endroit vous vous êtes allé travailler?
Alors en fait, déjà, elle dépend de l'île de Madagascar, la Grande Terre, hein, qui est un énorme territoire au sud-est de l'Afrique. Et cette île Sainte-Marie, de 49 km de long, tout en longueur, se situe à 30 km à l'est de Madagascar, mais dépend de Madagascar aujourd'hui. Hein. Et cette île, en fait, au sud de cette île Sainte-Marie, se trouve une baie enclavée, vraiment magique. Quand on arrive sur les lieux, c'est assez incroyable. Une baie enclavée qui s'appelle au temps de la piraterie, la baie des pirates, appelée ainsi par la marine royale française. Et cette baie d'Ambodifotatra, qui est le nom du village, de la commune qui jouxte cette baie, est extrêmement intéressante parce que c'est une végétation luxuriante comme on l'imagine. C'est un vrai décor de l'île au trésor.
C'est le décor de Pirates des Caraïbes.
Complètement. Et quand on va travailler là, on part travailler en pirogue. C'est assez magique. Et à l'entrée de cette baie, on a une petite île, un îlot qui s'appelle l'îlot Madame, qui s'appelait l'îlot Caille à l'époque, qui est rejoint par deux digues actuellement, évidemment, pour pouvoir circuler. Et à l'intérieur de cette baie, on a un autre îlot, donc c'est ça, c'est assez drôle, c'est un archipel de petites îles, et qui s'appelle l'îlot Forban. Voilà. Et sur cet îlot Forban et sur cet îlot Madame à l'entrée, on va avoir des vestiges archéologiques qui sont conservés et qui sont directement liés à cette occupation pirate de la fin du XVIIe siècle.
Alors là, on a plein d'indices. L'îlot Forban, la baie des pirates. On savait que des pirates s'étaient donc établis là, ou en tout cas avaient eu une activité dans cette baie. Est-ce qu'on sait d'où venaient ces pirates? Quel mouvement s'opérait au tournant du XVIIIe siècle entre pirates des Caraïbes et pirates de l'océan Indien? Parce que quand on pense piraterie, on pense évidemment tout de suite aux Caraïbes.
Alors en fait, ce sont déjà des pirates pour la plupart qui sont anglais ou français. Français pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin de l'île Bourbon, l'île de la Réunion, et donc c'est une colonie française. L'île Maurice n'est pas loin non plus, qui s'appelait à l'époque l'île de France. Et puis, vous avez quand même pas mal d'Anglais qui viennent par là, puisque cette île Sainte-Marie a installé un comptoir de commerce de contrebande par un Anglais venant d'Angleterre, mais qui a aussi pas mal de connexions en Nouvelle-Angleterre, notamment vers Boston. Donc déjà, on voyage beaucoup. Et là, vous allez avoir le fil conducteur avec les Caraïbes. C'est que justement, ce réseau de l'île Sainte-Marie est totalement lié avec les connexions et la piraterie des Caraïbes d'origine, puisque le noyau en fait dur de la piraterie, s'il faut prendre deux minutes là-dessus, c'est à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, les pirates chassent les navires de commerce, notamment les galions espagnols et portugais qui font la navette entre l'Europe et les nouvelles colonies d'Amérique qui sont toutes naissantes. Ce phénomène se développe, on échange des marchandises, on installe des plantations, avec évidemment le commerce de la canne et l'esclavage malheureusement, et tout ça crée un microcosme avec des allées et venues de navires qui sont pas toujours très bien protégés. Les pirates, en fait, vont tout simplement s'injecter dans la brèche pour prendre ces navires. Ils seront de plus en plus protégés, ces bateaux, au fur et à mesure du XVIIe siècle, et surtout au début du XVIIIe siècle. Les gouvernements anglais, français, hollandais et autres, en fait, on en a un petit peu ras-le-bol de perdre leurs marchandises qui coûtent extrêmement cher, notamment avec les taxes liées aux compagnies des Indes occidentales, et vont donc décider de surprotéger leurs navires. Soit, donc, du coup, ils vont chasser les pirates, soit, dans ce cas, ils vont proposer des amnisties aux pirates qui vont parfois les accepter. Pour ceux qui n'acceptent pas et qui ne rentrent pas dans ce schéma-là, pendaison ou amnistie, ils décident de fuir l'océan Indien à partir de la fin du XVIIe siècle. Il faut quand même dire que dès les années 1680-1690, on a déjà des grands noms de la piraterie qui officient un petit peu dans l'océan Indien. Mmh. Et en fait, le lien va se faire grâce à ça.
Et on va en venir à présent à ces campagnes de fouilles récentes, plus ou moins bien menées. On va en parler ensemble.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
poursuit dans cette histoire de l'archéologie de la piraterie et cette archéologie de l'île Sainte-Marie où s'établirent des pirates au tournant du XVIIIe siècle avec vous, Jean Soula. Je l'évoquais à l'instant, le fait que ce site a déjà intéressé des archéologues par le passé, alors un passé plutôt récent. Parlez-nous un peu de ces campagnes de fouilles qui ont été menées, je crois, sans trop de rigueur.
Voilà, alors est-ce qu'on peut appeler ces personnes archéologues ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'était des chasseurs d'épaves, ou en tout cas explorateurs, sous le nom donc dirigé par Barry Clifford, qui est une équipe américaine de ce fait, accompagnée par certains archéologues. Bon, là, après, moi, j'ai pas les détails de comment ça s'est passé entre eux. Mmh. Il n'empêche que... ils ont découvert des choses, ça c'est un fait. Ils ont édité un ou deux articles scientifiques. Pas de rapport de fouille ou quasiment pas, à part un. Ils ont découvert en fait cette baie Sainte-Marie en 2000. Puis ils ont effectué des fouilles en 2010, puis en 2015. Et durant ces trois campagnes de fouilles, ils ont mis quand même au jour une épave de navire coulée par les pirates, qu'ils ont partiellement identifiée. Le problème avec ces Américains, c'est que ils ont plongé à plusieurs reprises. La fouille terrestre les intéressait pas. Hein. C'est vraiment la plongée sous-marine, donc en lien avec ce que je vous racontais tout à l'heure sur le phénomène de l'archéologie de la piraterie qui est quand même lié à ces épaves. Et ils cherchaient l'épave du capitaine Kidd, l'Adventure Galley, qui a coulé en 1689. Dans la baie. Donc dès la fin du XVIIe siècle, on a déjà des bateaux qui coulent. Ils sont assez surpris puisque le bateau date plutôt des années 1720, donc ça peut pas être celui-là. Et tout de suite, ils donnent une identification. C'est le problème avec ces recherches très controversées, c'est qu'on peut pas identifier un navire en 5 minutes. Enfin, ça se fait pas comme ça. Certes, il y a des archives qui indiquent qu'on a 4 ou 5 bateaux coulés dans la baie et on a leur nom et leur date de naufrage. Oui. Parce que tout cela est renseigné dans les archives anglaises, notamment celle d'Adam Baldridge, qui est le pirate qui a fondé ce comptoir de contrebande. Il n'empêche que, on le voit pour le Queen Anne's Revenge, qui a coulé en 1718 au large de Beaufort en Caroline du Nord, découvert en 96, identifié formellement comme étant le Queen Anne's Revenge, anciennement la Concorde, qui était un bateau français, qu'en 2017.
Qu'est-ce qui explique ce laps de temps-là ?
Eh bien, c'est l'accumulation des données, déjà les fouilles, qui se font extrêmement lentement, les financements qui vont avec, puisque une campagne d'archéologie sous-marine coûte cher. Mmh. Et de ce fait, c'est le nettoyage aussi des objets derrière, la post-fouille, l'étude en laboratoire de tous ces objets qui vont être accumulés. Quand on a la chance d'avoir des restes de coques, c'est-à-dire l'architecture navale, on a l'étude de ces éléments en bois, qui prend du temps également. Mmh. L'archéologie... souvent, on pense que avec l'archéologie préventive, tout va vite. Mais certes, on est rapide sur le terrain, mais derrière, il y a des mois, voire des années d'analyse et de recherche. Et là, c'est la même chose sur les épaves, voire c'est encore plus long. Mmh. Donc, identifier un bateau parce qu'on pense que c'est celui-là, généralement, c'est jamais la bonne méthode parce qu'on peut pas partir on peut partir des archives, c'est une chose, mais identifier à la va-vite sans avoir de preuves formelles, il y aurait eu la cloche du bateau avec le nom dessus, je veux bien, mais c'est loin d'être le cas. Non.
Alors, du coup, ces campagnes de fouilles ont laissé un souvenir un petit peu amer à Madagascar, et je crois que Madagascar, justement, le gouvernement de Madagascar a fait appel à l'UNESCO pour que des travaux de fouilles soient reconduits, et cette fois de façon un peu plus rigoureuse, et c'est là que vous êtes entré finalement en lice et vous êtes arrivé sur ces travaux de fouilles de l'île Sainte-Marie.
Oui, il faut remercier Michel Lourd et l'équipe de l'UNESCO, de la STAB, qui en 2015 a été du coup alerté par les autorités locales suite à une controverse suite à la découverte d'un lingot en argent qui était en fait en plomb. Enfin, bon, on revient pas là-dessus. Il n'empêche que ça a créé un émoi. Il y a eu du pillage derrière probable. L'UNESCO est arrivé, a effectué une mission de quelques jours sur place et a dit bon, là en fait les choses ne sont pas faites sérieusement. Même les objets qui ont été accumulés et déposés au musée, bon, certains ont été emmenés aux États-Unis avec, à l'époque, certaines autorisations. Il n'empêche qu'une partie des objets sont manquants. Ceux qui sont conservés sont toujours là. Nous avons réexaminé en 2022, puisque ça a commencé par là, par une mission de reconnaissance et de recherche, non pas sous-marine, mais terrestre, puis le réexamen de ces objets-là.
Ces objets qui avaient été laissés dans un état de conservation assez peu scrupuleux.
Oui, il n'y avait pas eu de désalinisation. C'est-à-dire que quand on sort des objets de terre, on a un traitement de lavage classique. Et quand on sort des objets du sel marin, de l'eau sous-marine, elle est très salée. Et donc, elle injecte ces objets sont complètement pris dans le sel. Et il y a un traitement de longue durée qui doit se faire dans des bassins de désalinisation pour enlever au fur et à mesure le sel. Et là, nous, on a retrouvé... déjà, tout était mélangé. Les carrés de fouilles, il faut imaginer. Hein, on a des carrés de fouilles sous l'eau. Tout était... vraiment, c'était extrêmement compliqué. Et il n'y avait pas eu ce traitement traitement de faits. Donc derrière nous, on a repris tout ça, on a publié un article en mars 2024 extrêmement sérieux sur juste à la revue dans la revue Afrique soutenue par l'université Paris-1-Sorbonne pour justement faire le lien avec ce que l'UNESCO nous avait demandé, enfin avait demandé à la recherche. Et nous, on est passé par là, on a fait correctement les choses en 2022 et on a montré surtout au gouvernement qu'on était extrêmement sérieux. Et derrière, on a pu engager une vraie campagne de fouilles archéologiques à la fois sous-marine et terrestre en mai 2024 et qui a donné de sacrés résultats.
Alors ça, c'est intéressant, on va faire un petit écart là à nouveau historique. Vous parlez d'archéologie terrestre pour parler de pirates. Est-ce que c'est si fréquent que ça que des pirates se sédentarisent au point qu'ils construisent des bâtiments que vous allez pouvoir fouiller, vous, en tant qu'archéologue ?
Alors, fréquent, non, parce que de toute manière, il n'y a rien de fréquent dans cette archéologie de la piraterie. Comme je vous l'ai dit, elle est née par le prisme de l'archéologie sous-marine et des épaves. Moi, ce qui m'intéressait, comme je suis pas plongeur professionnel, c'est-à-dire j'ai pas mon niveau de plongée classique et mon diplôme de fouilleur archéologue sous-marin, ce qui m'intéressait, c'était de connaître un petit peu ce qui se passait sur Terre et à travers ces objets. Et on s'est assez vite rendu compte que on était sur un unicum à Madagascar dans l'océan Indien, mais qu'on avait des choses qui étaient déjà connu dans les Caraïbes notamment. On connaît tous l'île de la Tortue, cette île de la Tortue qui nous a tous fait rêver, etc., qui dépend aujourd'hui de la République d'Haïti. Et sur cette île, il reste des vestiges qui demandent qu'à être fouillés, hein, mais le contexte politique fait que c'est très compliqué. Il n'empêche que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on a 15-20 ans d'occupation de flibustiers liés à un gouverneur français, puisque les choses ont un petit peu changé par rapport au début du XVIIIe siècle. Il n'empêche que on a des restes de campements probable, des restes de murs qui ont été édifiés à la fois par le gouverneur local mais aussi par les flibustiers qui travaillaient avec. On a l'île de Saint-Martin qui a été fouillée en 2016 par l'INRAP et notamment par les collègues Nathalie Sellier-Segard et Alexandre Coulot qui fait partie de notre équipe qui ont réexaminé les objets etc. de cette fouille et qui ont permis de mettre en évidence justement les restes d'un campement flibustier de la fin du XVIIe siècle. C'est une première en tout cas dans le territoire archipel antillais français. On a pour finir là-dessus Conrad Anzac, qui est de l'université de Barcelone, qui travaille sur l'île de la Tortuga, qui est une autre île, au Venezuela, et qui a mis en évidence des restes de tavernes côtières, en fait des tentes sur trous de poteaux avec de la vaisselle exotique venant du monde entier, et qui sont liées aussi à ces contrebandiers, à ces pirates qui pouvaient venir dans les parages. Donc on a les prémices un petit peu de cette archéologie terrestre de la piraterie. Il n'est évident que ce que on a trouvé cette année et ce qu'on va surtout trouver dans les campagnes à venir, ça va un petit peu révolutionner le genre de cette archéologie de la piraterie-là. Et on a déjà des éléments qui nous montrent que toutes les idées reçues, enfin en tout cas une grande partie des idées reçues sur les pirates sont à revoir.
Alors, quels éléments en particulier ?
Alors, on a déjà un multiculturalisme qui est là avec des objets qui viennent du monde entier, ça je l'ai dit, que ce soit sur les épaves ou sur le terrestre, c'est la même chose. On a des fragments de pipe à fumer, à tabac, qui viennent de Glasgow ou de Hollande.
Ça c'est incroyable, parce que ce fragment de pipe, on a même le nom du maître pipier qui a fabriqué la pipe.
50 cm conservés, et on a le nom gravé dessus, et on sait, grâce aux recherches qu'on a effectuées, et c'est ça qui est assez extraordinaire, un fragment vous raconte toute une histoire. Bon, ça tous les archéologues vont vous le dire, mais quand c'est marqué dessus, et en fait cette pipe elle a été fabriquée entre les années 1660 et 1730, c'est pile la période d'occupation. Est-ce qu'elle a été fumée par un pirate écossais ? Ça c'est trop difficile de le dire, et on a d'ailleurs William Kidd qui est passé par là. On a des célèbres pirates qui sont passés par là, notamment Olivier Levasseur dans les années
La Buse
dans les années 1720. Alors on a ces pipes, mais on a aussi des balles de pistolet, on a des pierres à fusil, on a beaucoup de porcelaine chinoise qui sont en fait liées à la cargaison des bateaux qui passaient par là et qui ont été entassées au fur et à mesure des années.
Donc c'est des porcelaines chinoises qui étaient commandées par les Portugais, par les grandes familles de Portugais, d'Espagnols.
Exactement, et qui après sont arrivées, stationnées là et qui sont resté en 1722, et c'est là où on a des témoignages d'archives incroyables, c'est qu'en 1722, on a Clement Downing qui fait partie d'une frégate, commandant d'une des frégates anglaises qui passe par là et qui fait fuir les pirates, et qui arrive, qui voit les bateaux coulés par les pirates s'aborder et qui dépassent de l'eau, donc il faut imaginer les mâts, les voiles, etc. Donc déjà, il notifie tout ça dans son journal de bord, qui a été conservé conservées aujourd'hui. Et ensuite, il voit les cases, les cabanes des construites à la malgache et occupées par ces pirates-là, avec des pavillons, etc. Et surtout, il voit des caisses et des caisses de porcelaine chinoise sur le rebord, sur les quais. Il autorise même ses marins à servir, en fait, parce que ça a une valeur marchande incroyable pour eux. Et nous, ce qu'on retrouve à moins de 5 cm de profondeur, parce que la stratigraphie, on parle d'archéologie, là, de sédimentologie, à moins de 5-10 cm de profondeur, on tombe déjà sur les niveaux pirates et sur cette porcelaine chinoise. On la voit même en prospection. Et donc, tout ça, en fait, est lié à ces commerces et à ces marchandises qui arrivent. Et pour l'anecdote, je parlais de révolutionner un petit peu la figure du pirate. Les Malgaches, on le sait dans les archives, revendaient des zébus, donc des bovidés, aux pirates, et notamment à la bande de Baldridge à la fin du XVIIe siècle. Et ce Baldridge, il continue à élever ses bovidés, ses zébus, pour déjà nourrir un petit peu sa communauté de pirates, mais aussi les revendre à des contrebandiers et à des équipages pirates qui pouvaient passer par là.
Et c'est un comptoir, finalement.
C'est un comptoir. Et on a retrouvé une centaine de restes de zébus lors de notre petite fouille de 18 mètres carrés. Et c'est là où on se dit qu'en fait, il y avait carrément une basse-cour, puisqu'on a retrouvé des restes d'ossements de poulets, des restes de caprinés, de porcs, etc. Donc, il faut imaginer presque le pirate, le sanguinaire pirate Forban, devenu un modeste contrebandier éleveur agricole dans une île exotique très loin de l'Europe.
Et là, Jean Soulin, on voit très bien l'intérêt de ce genre de travaux, justement pour se défaire de ces clichés, de ces images un peu de pirates sans foi ni loi. Alors bien sûr, peut-être sans loi, mais peut-être avec parfois l'envie de se poser et de s'établir un peu de façon plus tranquille dans ce genre de petite île comme l'île Sainte-Marie. On parle de l'archéologie terrestre. Alors là, vous évoquiez des toutes petites surfaces qui ont été fouillées. 18 mètres carrés, c'est pas beaucoup. J'imagine que c'est frustrant. Surtout quand on sait qu'en grattant un petit peu, on peut trouver énormément de choses. Là aussi, on craint, j'imagine, les fouilles un peu sauvages et puis le pillage. On a peu parlé quand même des épaves. Il y en a. Là aussi, vous avez essayé de les fouiller. Vous les avez fouillées. Qu'est-ce que vous avez pu établir sur ces bateaux coulés dans la baie des pirates?
Alors juste, je reviens, on a quand même eu la chance d'être extrêmement bien accueillis par la population locale depuis deux ans, en 2022-2024. Bon, à partir du moment où moi j'ai beaucoup communiqué aussi sur place en donnant des conférences, en participant à des émissions de radio qui avaient été traduites en malgache, nous maintenant, enfin très honnêtement, on est extrêmement bien accueillis. J'ai plus de crainte de pillage, ça peut toujours arriver malheureusement, mais là on était dans un lieu qui était très passager, on n'a eu aucun problème. Ça c'est important de le dire parce que les Saint-Mariens sont vraiment une population adorable et on va transmettre en fait leur patrimoine, notamment en montant une exposition à ciel ouvert en 2025 lors de notre prochaine campagne de fouilles. On a le lycée, le collège qui est juste à côté avec plein d'enfants qui passent par là, donc on leur explique. Par rapport aux épaves, on a fait la prospection qu'avaient fait les Américains, mais aussi l'UNESCO, et on a mis en évidence plusieurs sites archéologiques qu'il faudra vérifier si ce sont bien des épaves. On a trouvé bien évidemment une qu'on connaissait de nom et d'après les photographies, et on a pu replonger dessus. C'est un bateau qui a probablement coulé dans les années 1720, qui fait environ 30 à 40 mètres de long, qui est entièrement en teck, en bois de teck, puisque nous avons pu effectuer des analyses, ce qui est extrêmement rare. Il n'existe pas à ce jour de bateaux pour la période du XVIIe, XVIIIe siècle entièrement fabriqué en teck et fouillé. Donc il faudra voir ce que ça donne par la suite. Et faut imaginer que cette épave, elle est complètement, en tout cas pour la partie avant, recouverte de pierres de laisse, c'est-à-dire un tumulus de pierres qu'il a fallu démonter au fur et à mesure, sans être suivi plusieurs couches de vases assez denses qu'il a fallu évidemment aspirer avec notre aspirateur sous-marin. Les archéologues plongeurs connaissent ça par cœur. Et en établissant notre carroyage, on a fouillé carré par carré. Et sous plusieurs centimètres, voire mètres de vase, on a réussi à mettre en évidence le reste de la structure en bois du navire. Et jonché dans toutes ces couches, on a trouvé pas mal d'objets qui sont les restes de cargaison abandonnés par les pirates. Non pas, ils ont sabordé leur navire, ça on le pense concrètement, puisqu'on a vu des restes
de bois. Pourquoi on saborde un navire ?
Alors, pour deux raisons. La première, pour des raisons stratégiques. La baie est enclavée, on a deux entrées. On en a une entrée qui est très facilement navigable. Donc, on coule les navires qui sont plus utiles à cet endroit-là, dès 1699 jusque dans les années 1720, donc 4, 5 navires peut-être plus. L'autre raison, c'est des raisons d'amnistie. Quand on accepte une amnistie par le gouverneur de Bourbon à l'époque, il y a des clauses dans cette amnistie qui sont conservées d'ailleurs aux archives de la Réunion ou de Vannes en Bretagne et qui nous permettent de lister un petit peu les clauses. Et dans une de ces clauses, il faut couler son bateau. Ça fait partie du marché. Et donc là, pour celle de 1720, on n'a pas encore la réponse puisqu'on n'a pas totalement identifié ce bateau. On pense que c'est un navire de la VOC, la Compagnie Orientale des Indes Néerlandaises. C'est un gros bateau, hein, plus de 500 tonneaux, de tradition européenne, je le dis, puisque on pense tech, donc forcément fabrication en Asie. Il est probablement fabriqué en Asie, dans les
comptoirs. Mais sur des plans européens.
Mais sur des plans européens, c'est-à-dire par des Européens, probablement par des Hollandais, qui sont la force, hein, la force commerciale de l'époque. Et donc, on a retrouvé ces restes de bois, et notamment un reste de mât de misaine, sur 70 cm de haut. Il faut imaginer que le bateau est coulé sur le côté tribord bâbord, le côté tribord est dépassé un petit peu de la vase, et bâbord est complètement enfoui sur 3-4 mètres de vase, qu'il va falloir donc aspirer dans les années à venir.
Et ça, c'est dans les années à venir, c'est dans les années 2025-2026.
2025-2026.
Voilà, les prochaines campagnes de fouilles qu'on suivra avec une grande attention. On pourrait vous écouter parler des heures. Merci beaucoup, Jean Soula. On
Merci
peut vous lire
vous.
Dans La grande histoire pop des pirates aux éditions Erol. À très bientôt dans l'entretien archéologique. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Vincent Charpentier, Eve Etienne, Sandrine Chaperon, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Thank you.